Vous écoutez On lit pour vous.
Le syndrome du jour sans fin pour les personnes handicapées. Un texte de Frédéric Vachon et Isabelle Gosselin, paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir. Le collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap, CODDPSH, exprime sa déception en ce 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Depuis notre fondation en 2020, nous avons mis en lumière les failles du système et les inégalités persistantes envers les personnes en situation de handicap. Face à la multiplication des crises sociales, leur situation s'aggrave de jour en jour. Aujourd'hui, nous dénonçons l'inaction manifeste de la Coalition Avenir Québec, CAQ, face à nos besoins et son entreprise d'austérité à grande échelle. Malgré les lois censées lutter contre la discrimination, les personnes en situation de handicap continuent de faire face à d'importantes difficultés pour accéder à des services appropriés. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou autiste, par exemple, peinent à trouver des médecins ou dentistes capables de les comprendre et d'adapter les traitements. Les personnes lésées à la moelle épinière, à l'hôpital ou aux urgences peinent à faire reconnaître leurs besoins spécifiques, comme des surfaces thérapeutiques ou des soins pour prévenir les plaies de pression. Elles sont souvent traitées comme des patients capricieux, et les spécialistes ne communiquent qu'avec les accompagnants, ignorant leurs véritables besoins. Quant aux services de soutien à domicile, ils sont insuffisants. Les personnes en situation de handicap ne reçoivent que rarement les heures de service nécessaires, et les travailleurs du secteur sont souvent sous-payés et sous-formés. Les réductions d'heures, même de 15 minutes, affectent gravement la qualité des soins, notamment pour des gestes essentiels comme manger en sécurité. De plus, l'offre de services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou autiste, vivant de manière autonome ou chez leurs proches, est extrêmement restreinte, ce qui crée un épuisement généralisé des proches aidants. Le transport en commun, qu'il soit adapté ou ordinaire, reste difficilement accessible. Le gouvernement Legault semble indifférent, comme l'illustrent les annulations de projets d'accessibilité dans le métro de Montréal. En dehors de la métropole, dans plusieurs régions, il n'existe plus de transport adapté après 18 heures, voire pas du tout. Comment envisager une participation pleine et entière à la vie professionnelle ou sociale dans ces conditions? Par ailleurs, l'aggravation de la crise économique affecte particulièrement les personnes en situation de handicap. Beaucoup peinent à joindre les deux bouts et doivent choisir entre se nourrir et se soigner, surtout ceux et celles qui nécessitent des prises régulières de médicaments. La crise du logement s'aggrave également, avec un manque crucial de logements adaptés et abordables. Le programme d'adaptation de domicile est tellement long et contraignant que de nombreux propriétaires renoncent à rendre leur logement accessible, condamnant ainsi les personnes en situation de handicap à vivre dans des environnements inadaptés. Comme si la situation n'était pas déjà difficile, nous apprenions cette semaine que la Société d'habitation du Québec ne prenait plus les nouvelles demandes et les mises à niveau des adaptations existantes pour la prochaine année. Les personnes en situation de handicap issues de l'immigration, ainsi que les femmes et filles en situation de handicap, font face à des discriminations spécifiques. Les récentes politiques d'immigration aggravent la précarité des personnes handicapées demandeuses d'asile ou réfugiées. Leur santé mentale se fragilise et leur accès à la francisation est entravé. Ces personnes qui ont choisi le Québec pour contribuer au développement du pays, se retrouvent marginalisées. Quant aux femmes et filles en situation de handicap, elles continuent de se voir refuser l'accès aux ressources d'aide pour femmes violentées, ainsi qu'à des soins gynécologiques et obstétriques adaptés à leurs besoins. le gouvernement doit impérativement changer sa vision et ses priorités. Les ministères doivent réévaluer leur position afin de mieux comprendre les réalités des personnes en situation de handicap et de leurs besoins spécifiques. La vision actuelle, trop linéaire, ignore ces besoins et provoque une souffrance qui finit par affecter toute la société québécoise. Bien que l'avenir des personnes en situation de handicap semble incertain, il est encore possible de leur offrir une meilleure qualité de vie en répondant concrètement à leurs besoins. Il est grand temps que la CAQ sorte du mode pilote automatique et réévalue ses actions. Son projet d'austérité, caché sous les termes de rigueur budgétaire, ne passe tout simplement pas. Le syndrome du jour sans fin doit cesser. Un véritable projet de société doit débuter pour reconstruire notre filet social, un filet qui ne laisse tomber personne. Il en va de nos idéaux de justice sociale, d'égalité, pour que le Québec soit à même de relever les défis que les prochaines décennies nous réservent. Nous l'exigeons. C'était « Le syndrome du jour sans fin pour les personnes handicapées », un texte de Frédéric Vachon et Isabelle Gosselin, paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les filles québécoises travaillent plus que les garçons, selon une nouvelle enquête. Un texte de Dominique Plante, paru le 29 novembre 2024 dans TVA Nouvelles. Les adolescentes sont plus nombreuses à se retrouver sur le marché du travail pendant l'année scolaire que les adolescents, selon un nouveau rapport de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, alors que le nombre d'heures au boulot augmente pour les élèves du secondaire. Plus de la moitié des filles au Québec, 53%, occupent un emploi étudiant, en comparaison aux garçons, 48%. En tout, un élève du secondaire sur deux a travaillé durant l'année scolaire de 2022-2023. C'est du moins ce qu'indique la troisième édition de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire de l'ISQ. Il s'agit d'une tendance à la hausse pour les jeunes de quatrième et de cinquième secondaire, mais à la baisse pour ceux de première et de deuxième secondaire. Le rapport n'a pas précisé pour ceux de la troisième secondaire. Rappelons que ces données datent d'avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'encadrement du travail des enfants, qui interdit généralement à un enfant de moins de 14 ans de se retrouver sur le marché du travail. La loi prohibe également à un jeune de travailler plus de 17 heures par semaine, dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi. L'occupation d'un emploi n'a toutefois pas baissé le niveau d'engagement scolaire chez les filles. Au contraire, 20 % des Québécoises affichent un niveau élevé d'engagement scolaire. Ce pourcentage s'établit à 15 % pour les garçons. Plus au travail, plus de décrochage scolaire. Près d'un élève du secondaire sur 5, 18 % a travaillé au moins 16 heures ou plus par semaine pendant l'année scolaire, rapporte le document de l'ISQ. Les garçons sont d'ailleurs plus nombreux à consacrer davantage d'heures à leur emploi que les filles, 21 % contre 16 %. Plus les jeunes sont au boulot, plus ils sont à risque de décrocher de l'école, selon l'enquête. En tout, 31 % de ceux qui font au moins 16 heures par semaine sont à risque. Ce chiffre descend à 20 % pour ceux qui font entre 11 heures et 15 heures de travail. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la période 2016-2017, où le taux était établi à 12 % pour les deux catégories. Les garçons sont aussi plus portés à se blesser au travail qu'avant. Près de 3 adolescents sur 10, 29 %, confirment avoir subi une blessure dans le cadre de leur emploi. Chez les filles, ce taux baisse à 25 %. D'ailleurs, 13 % d'entre eux se sont absentés de l'école pour au moins une journée après un accident au travail. L'enquête a été réalisée auprès de 70 825 adolescents dans 483 écoles publiques ou privées à travers la province pour l'année scolaire 2022-2023. C'était « Les filles québécoises travaillent plus que les garçons, selon une nouvelle enquête », un texte de Dominique Plante paru le 29 novembre 2024 dans TVA Nouvelles.
surqualifiés pour enseigner. Des profs qui ont leur brevet dénoncent la gestion déconnectée des ressources humaines. Un texte de Dominique Scali paru le 2 décembre 2024 dans le Journal de Montréal. Des professeurs dénoncent les raisons aberrantes pour lesquelles ils se seraient fait bouder par le système scolaire, comme le fait d'être surqualifiés, alors que le nombre d'enseignants non qualifiés ne cesse d'augmenter. Ça n'a aucun sens comment les ressources humaines sont gérées. Ellipse. Il y a un grand ménage qui pourrait être fait, dit Serena Royer, 43 ans. Le journal publiait récemment que le nombre d'enseignants non légalement qualifiés venait d'atteindre un nouveau record dans les écoles. Pendant ce temps, des professeurs qualifiés se font bouder par certains centres de services scolaires, CSS. Madame Royer a fait un baccalauréat en enseignement et détient son permis depuis 2005. Elle a 20 ans d'expérience en enseignement du français au secondaire, dont 15 ans dans le même CSS à Vaudreuil. Elle détient un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université de Sherbrooke et enseigne également aux futurs professeurs à l'Université de Montréal comme chargée de cours. Aucun retour. En 2018, elle a envoyé son CV au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, CSSMB, mais n'a pas eu de réponse. Au début juin 2022, elle a réappliqué sur la plateforme Répondez présent. N'ayant pas de retour deux semaines plus tard, elle a donc pris le téléphone pour tenter de parler à un humain. Elle se serait alors fait dire qu'elle était surqualifiée. On ne comprenait pas pourquoi elle voulait enseigner au secondaire étant donné les conditions peu avantageuses, rapporte Mme Royer. Elle y voit un certain mépris pour son métier, ainsi qu'une déconnexion du terrain. C'est aberrant. C'est suite à ce coup de fil qu'elle a pu finalement obtenir un contrat en vue de la rentrée 2022. Le système ne veut plus de moi. Mais dans quel système sommes-nous? S'indigne Hélène Parer, 58 ans, une enseignante légalement qualifiée qui a été boudée par le Centre de services scolaires de Montréal, CSSDM, cet automne. Le 8 octobre dernier, elle a reçu un courriel l'informant que sa candidature n'était pas retenue. « J'étais estomaquée », avoue-t-elle. Madame Parer a obtenu son permis en 1990 et a enseigné le français langue seconde au secondaire pendant 10 ans. Au début 2024, elle a enseigné à des adultes dans le secteur communautaire. Elle précise n'avoir aucun avis disciplinaire à son dossier. Elle a donc contacté le CSSDM pour avoir des explications. « On m'a dit que j'avais démontré de bonnes qualités et que j'avais la réussite des élèves à cœur. Mais on lui a reproché une non-actualisation de ses compétences, un peu comme si elle n'était plus à jour. Et ce, même pour faire de la suppléance. C'est ridicule. Ils se plaignent constamment qu'ils sont à court de remplaçants. Le système ne veut plus de moi, a-t-elle conclu. Le gouvernement a pourtant misé sur des campagnes ou des incitatifs pour tenter de ramener les profs retraités dans les classes dans les dernières années. De son côté, le CSSMB indique ne pas pouvoir commenter les dossiers de candidature. Quant au CSSDM, il indique que la candidate n'avait pas réussi son processus d'embauche, c'est-à-dire son entrevue, précise par courriel Alain Perron du service des communications. Silence radio au public, demande au privé. Des enseignantes qualifiées qui ont eu droit à un silence radio de la part du système public ont rapidement été contactées par des écoles privées, témoignent plusieurs d'entre elles. Dès qu'elle a commencé à soumettre sa candidature dans des collèges privés en juin dernier, Serena Royer a rapidement été rappelée. Elle a reçu pas moins de 7 offres d'emploi, compte-t-elle. Dans certains cas, on l'a contactée alors qu'elle venait à peine de s'inscrire dans le portail de recrutement de la Fédération des écoles privées. Restant du restant. Une expérience diamétralement opposée à celle vécue au public, où elle a dû insister avant de décrocher un contrat pour la rentrée 2022. Et la tâche qu'elle a alors obtenue équivalait au restant du restant du restant, image-t-elle. Le contrat impliquait d'enseigner à trois groupes différents, ce qui nécessitait une planification différente pour chacun, incluant un cours maison pour lequel aucun matériel n'avait été créé, explique-t-elle. Après quelques mois et une hospitalisation pour des raisons personnelles, elle a remis sa démission. « Je me suis dit, tant qu'à ça, je vais retourner enseigner au privé. » Elle enseigne maintenant au collège Villa Maria, à Montréal, où elle a trouvé chaussures à son pied. Mais pendant ce temps, combien de dossiers comme le mien traînent dans les classeurs des CSS, se demande Mme Royer. Ils ne se forcent même pas. Brigitte a pris sa retraite au printemps dernier. En soumettant sa candidature comme suppléante, elle s'attendait à ce que le téléphone ne dérougisse pas. Or, depuis la rentrée, elle n'a reçu aucun appel de son CSS, situé dans la métropole. « Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne qui a eu une petite grippe depuis septembre », s'étonne-t-elle. Pendant ce temps, les élèves qu'elle accompagne en tutorat privé lui disent que lors des absences, c'est presque toujours une éducatrice du service de garde qui vient pallier. « Ils ne se forcent même pas pour trouver quelqu'un », suppose-t-elle. Brigitte a bel et bien été appelée une fois pour faire de la suppléance, dans un collège privé. C'était « surqualifié pour enseigner ». Des profs qui ont leur brevet dénoncent la gestion déconnectée des ressources humaines. Un texte de Dominique Scali paru le 2 décembre 2024 dans le Journal de Montréal.
Des enfants sous le radar de la santé mentale, un texte d'Emmanuel Jasmin paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. La santé mentale des jeunes, en tant qu'enjeu social préoccupant, devrait être au cœur de nos priorités collectives. Considérant la hausse des diagnostics, il est d'autant plus nécessaire d'agir en prévention, surtout auprès des plus vulnérables. C'est notamment le cas des enfants ayant un trouble développemental de la coordination, TDC, plus susceptibles que leurs pairs, qui ont un développement typique de présenter un problème de santé mentale. Le TDC, aussi appelé dyspraxie, est une condition neurodéveloppementale qui se manifeste, dans la vie de tous les jours, par des difficultés avec l'apprentissage et l'exécution de mouvements. Les enfants présentant un TDC ont du mal à acquérir, malgré la pratique, certaines habiletés motrices, comme boutonner un chandail, attraper un ballon ou former des lettres. En raison de leurs difficultés motrices, plusieurs de ces enfants vivent souvent de la frustration, de l'embarras, de l'anxiété, un manque d'estime de soi ou de l'isolement social, ce qui peut affecter leur santé mentale. Alors que le TDC touche environ 5 à 6 % des enfants d'âge scolaire, ce trouble serait l'un des moins bien compris et reconnus en santé et en éducation. Ainsi, déjà, en s'informant sur le TDC, on contribue à améliorer la compréhension de la réalité de ces enfants. Cela aide à établir des attentes réalistes et à faire preuve de patience, de sensibilité et de bienveillance, ce qui favorise leur bien-être et leur estime de soi. D'ailleurs, la sensibilisation au sujet du TDC constitue un outil puissant pour promouvoir la santé mentale des personnes vivant avec ce trouble. Cultiver la joie, l'estime de soi et l'amitié. Comme mentionné précédemment, éprouver des émotions négatives, comme de la frustration, est courant chez plusieurs enfants présentant un TDC. En plus de travailler sur l'accueil des émotions, on gagne à accroître chez ces jeunes les expériences qui leur procurent de la joie afin de susciter leur motivation, leur engagement et leur bien-être psychologique. Il faut savoir que certains jeux peuvent ne pas les amuser en raison des efforts supplémentaires que cela leur demande. Au lieu de tenir pour acquis ce qui plaît aux enfants, mieux vaut se montrer à l'écoute de leurs réactions, de leurs préférences et de leurs intérêts. Les enfants ayant un TDC présentent souvent une faible estime de soi. En les aidant à se sentir compétents et autonomes, on renforce leur estime, un facteur de protection en santé mentale, tout en répondant à leurs besoins psychologiques. Des interventions probantes, comme l'approche coop utilisée en ergothérapie, permettent d'agir en ce sens. En effet, cette intervention développe la compétence et l'autonomie à travers la résolution de problèmes et l'acquisition d'habiletés et de stratégies. L'entourage peut aussi soutenir la compétence et l'autonomie de ses enfants, entre autres en les amenant à trouver leurs propres solutions. Puisque l'isolement social est une réalité souvent vécue chez les enfants présentant un TDC, une attention spéciale devrait être portée à leurs liens d'amitié. En plus de répondre à leurs besoins d'appartenance, il s'agit d'un autre facteur de protection en santé mentale. C'est encore plus important en cas d'intimidation, ce à quoi sont davantage exposés les enfants présentant un TDC. De plus, la qualité des liens d'amitié peut prévenir ou réduire les symptômes d'anxiété ou de dépression chez ces enfants. Proposer des activités en petits groupes, dans un climat bienveillant et coopératif, peut également faciliter la création de liens amicaux. Promouvoir l'équilibre de vie. Les enfants ayant un TDC sont aussi plus susceptibles que leurs pères d'adopter un mode de vie sédentaire et de faire un usage excessif des écrans durant leur temps libre. Il peut donc être requis de s'attarder à leur équilibre de vie pour préserver leur santé mentale. Les bienfaits de l'activité physique sont maintenant bien reconnus. Cependant, les enfants ayant un TDC font en général moins d'activité physique que leurs pères, ce qui peut affecter leur estime de soi et les isoler socialement. Étant donné leurs difficultés motrices, il est recommandé de les orienter vers des activités physiques peu ou pas compétitives qui peuvent se pratiquer pour le plaisir, sans pression de performance. La natation, le vélo, le patin, le ski, l'escalade et la danse en sont des exemples. En éducation physique, on suggère de réduire la pression liée à l'évaluation, de proposer des défis atteignables, d'accorder plus de temps pour l'apprentissage, d'accueillir les émotions négatives, d'offrir des moyens soutenant la participation et la réussite et de témoigner du respect et de l'appréciation. Chez les enfants présentant un TDC, il est fréquent que leurs habitudes de sommeil soient perturbées. Puisque les problèmes de sommeil peuvent être une cause et une conséquence des problèmes de santé mentale, n'oublions pas d'y porter attention. Si l'activité physique peut aider à améliorer le sommeil, d'autres interventions ou traitements peuvent être requis. Le cas échéant, il ne faut pas hésiter à consulter. Enfin, ces pistes d'action pourraient certainement bénéficier à d'autres enfants avec ou sans conditions particulières. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, évitons de laisser des enfants passer sous le radar et agissons, dès maintenant, pour favoriser leur mieux-être au quotidien. C'était « Des enfants sous le radar de la santé mentale », un texte d'Emmanuel Jasmin paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.
Félix-Antoine aura inspiré ses pères et un prix. Un texte de Jonathan Cossette paru le 3 décembre 2024 dans l'Hebdo Journal. C'est mardi matin, en direct de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, qu'a été officialisée la création du prix Félix-Antoine, en l'honneur de Félix-Antoine Aubert Maurras. Le tout nouveau prix aura pour objectif de reconnaître et promouvoir les initiatives favorisant un environnement inclusif pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou une neurodiversité. Le rôle de Félix-Antoine a été majeur ici, et ça a été le premier à participer à mes cours réguliers pour ensuite ouvrir la porte à d'autres, a d'abord lancé Paul Godet, conseiller pédagogique en technologie éducative et chargé de cours au département des sciences de l'éducation. Je me souviens encore, lorsqu'il est venu me voir et qu'il m'a souligné que lui aussi voulait prendre part à des cours réguliers comme les autres étudiants. C'est un honneur qui lui revient aujourd'hui et qui a été rendu possible notamment grâce à Françoise Maurras qui, étant la maman de Félix-Antoine, voulait elle aussi promouvoir l'inclusion et à la fondation de l'UQTR qui a embarqué avec nous là-dedans. Le prix Félix-Antoine ne récompensera pas les résultats scolaires, parce que ce n'était pas l'intention première, et il existe bien d'autres distinctions pour juger des résultats. Le jury va plutôt se baser sur l'implication des gens en place, que ce soit des étudiants ou des membres du personnel. Ils sont tous éligibles. L'apport de Félix-Antoine est mondial aujourd'hui. J'ai eu des gens de France, de la Suisse et de la Belgique qui sont venus assister à mes cours pour voir comment on pouvait faire cette intégration qui est impossible à leurs yeux chez eux. Cet automne, c'est une personne de l'Allemagne qui est venue analyser notre façon de faire. Marc Ayotte, maintenant retraité, a longtemps collaboré avec M. Godet et a travaillé pendant 25 ans au plateau de travail de l'UQTR, tout comme Félix-Antoine, d'ailleurs. De son côté, Véronique Busby l'a accompagné en tant qu'intervenante pendant de nombreuses années. En 2005, je faisais mes débuts au CRDI et Paul a intégré Félix-Antoine à sa classe, ce qui allait ouvrir la voie de l'intégration de la visibilité des autres participants au sein de la communauté universitaire, a-t-elle témoigné. L'environnement dans lequel ils évoluent est si accueillant, inclusif et enrichissant pour leur rôle social et leur développement. Le fait de pouvoir participer et d'avoir été témoin de votre épanouissement est pour moi une grande source de motivation, tant au niveau personnel que professionnel. Merci à la Fondation pour l'attribution de la bourse Distinction Félix-Antoine, qui visera à récompenser des projets valorisants d'inclusion et l'intégration de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. La première série de mises en candidature est ouverte et se terminera le 15 janvier. Pour soumettre une candidature ou faire un don pour le prix, visitez le www.uqtr.ca/prix-félix-antoine. La première personne lauréate sera dévoilé le 10 février prochain, lors du gala remise de bourse de la Fondation de l'UQTR. C'était « Félix-Antoine aura inspiré ses pairs et un prix », un texte de Jonathan Cossette paru le 3 décembre 2024 dans l'Hebdo Journal.